Bonjour. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier cours pour cette année. Enfin, il y a le colloque donc sur l'Ustrushana le 18 mai, salle 2, qui est déjà annoncée sur le site du collège. L'année prochaine, j'ai pas encore donné mes titres de cours, mais je pense que le cours portera sur l'Asie centrale, enfin notamment la Sogdiane, avant et après la conquête arabe, voilà, autour de la conquête arabe, parce qu'il y a beaucoup de travaux nouveaux qui sont en train de paraître là-dessus. Et il n'y aura probablement pas de séminaire, mais une journée d'études en juin consacrée au rapport entre l'Inde et l'Asie centrale. Certaines personnes m'avaient demandé la dernière fois d'indiquer des références commodes en français pour s'initier aux questions du zoroastrisme. Alors, j'avais indiqué donc la traduction complète des textes sacrés, donc de l'Avesta par Pierre Lecoq, et j'avais indiqué aussi ce volume « Zoroastrisme, le rite pour l'éternité » auquel j'ai participé. J'avais dit que c'était dans les dossiers d'archéologie. Non, c'est dans « Religion et histoire ». Voilà, paru en 2012, mai-juin 2012. Un dossier assez complet que je recommande. Alors, nous allons terminer d'accompagner les Sogdiens dans leur voyage en Chine. Et avant de vous commenter quelques documents iconographiques très éloquents, je voudrais signaler que la question des professions exercées par les Sogdiens installés en Chine, enfin, notamment à Turfan et Dunhuang, a été étudié, enfin renouvelé en fait, en 2004 par un article d'Étienne de Lavessière et Éric Trombert dans un volume spécial de la Revue des Annales consacré à l'Asie centrale, où par ailleurs j'avais fait un article sur Samarcande. J'ai déjà signalé cet article de Trombert et de Lavessière qui s'appelle « Des Sogdiens et des Hou, processus d'assimilation ». Et l'intérêt de cet article, c'est qu'ils ont directement exploité des recensements locaux chinois opérés par les autorités chinoises dans ces deux villes, donc Turfan et Dunhuang, ces deux oasis de l'Ouest, à diverses périodes. Et ça permet vraiment de voir les Sogdiens sur le terrain. Voilà. Alors, les résultats sont un petit peu surprenants, parce qu'on s'attendrait à évidemment, une énorme prédominance des activités commerciales. Alors, elles sont présentes, mais elles ne sont pas majoritaires dans cette population. Donc, on voit bien que ce qui nous est connu par les épitaphes, les grands tombeaux des marchands, ce que racontent les chroniques chinoises, c'est le sommet de l'iceberg. C'est vraiment c'est l'élite, les communautés marchandes mobiles, qui étaient en train de s'intégrer aux élites chinoises. Mais il y avait aussi tout un petit peuple. Il y en avait un certain nombre dans l'armée. Alors, à Turfan et Dunhuang, on voit... Bon, il y a quand même des métiers liés au commerce. On note des aubergistes. Une profession qui a posé problème à Trombert et Étienne de Lavessière, c'est agrafeur de pieds de chameau. Jusqu'au moment où on a trouvé que dans les récits de voyages qui accompagnent les publications d'Orelstein, il raconte qu'à l'étape, on agrafait avec des crampons métalliques les pieds, les sols des chameaux, parce que les chameaux n'ont pas de sabots. Et donc, sur les cailloux du désert, ils se blessent. Et une des tâches le soir à l'étape, c'est de rafistoler les pieds des chameaux. Et donc, c'était une profession exercée par des Sogdiens. Voilà. Alors, on voit aussi d'autres métiers en rapport avec les animaux mobiles. Donc, on a des tanneurs, on a des maroquiniers. Mais surtout, c'est quand même assez surprenant, on a une majorité d'agriculteurs. tout simplement, des colons agricoles. On avait déjà vu, en étudiant certains textes, qu'on a des exemples de colonies sogdiennes qui migrent collectivement depuis la Sogdiane avec leurs seigneurs et leurs paysans. Et là, on les voit installés. Et parmi eux, à Dunhuang comme Turfan, il y a des viticulteurs. C'est intéressant parce que par ailleurs, on sait que les Sogdiens ont joué un rôle essentiel dans l'introduction en Chine, non pas seulement du vin, mais aussi de la viticulture. Probablement, ils n'ont pas été les premiers, ils n'ont pas été les seuls, parce que on voit que le nom qui désigne le vin n'est pas d'origine sogdienne, c'est un mot indo-européen, ça aurait pu venir par les Tokhariens de Kutcha, bon, voilà, des peuples en rapport avec l'Asie centrale. Mais c'est quand même les Sogdiens qui ont été les grands introducteurs. Alors, je recommande un article de Éric Trombert, paru dans le Journal Asiatique, il y a peut-être une dizaine d'années, sur les origines de la viticulture en Chine, notamment le facteur sogdien. Et il montre que les endroits où on trouve encore de la viticulture à l'aube du XXe siècle en Chine, c'est de la viticulture qui ne donne pas de vin, puisque depuis les Ming, il est interdit de fabriquer du vin. Seules les communautés monastiques peuvent le faire, ou les étrangers. Mais il y a des vignes pour du raisin de table. Et curieusement, c'est les endroits... Alors, bien entendu, tout le monde connaît les raisins de Turfan, mais on voit que dans certains cas, en Chine même, ce sont des endroits où il y avait eu beaucoup de Sogdiens, notamment Taiyuan, à mi-chemin entre Pékin et Xi'an, était très réputé pour son raisin de table. Et on sait que c'est un lieu où il y avait beaucoup de Sogdiens, puisque l'un des sarcophages que j'ai commenté, le sarcophage de Yuhong, en provient. Alors on voit aussi que dans ces deux oasis, là aussi c'est une surprise, il n'y a pas de ghetto sogdien. Ils sont dispersés. Les lopins de terre sont répartis un peu partout. En fait, c'est au gré des assignations par l'administration chinoise. Alors probablement, il y avait dans les cœurs urbains, il devait y avoir un quartier sogdien, mais on les voit aussi dans la campagne. Alors, une autre source sur la diversité professionnelle des Sogdiens en Chine, elle est très connue, c'est même souvent par là que le visiteur de nos musées fait pour la première fois connaissance avec ces populations, ce sont évidemment les terres cuites d'époque Tang que l'on trouve massivement dans des tombeaux, d'ailleurs pas dans des tombeaux sogdiens. On n'a pas d'image de terre cuite de sogdiens dans les tombeaux sogdiens, tout simplement parce que ces tombeaux sogdiens datent d'avant l'époque Tang, avant la mode de ces figurines. Ces figurines, on les trouve dans des tombeaux chinois. Mais ce sont des sujets pittoresques, et un sujet qui est vraiment privilégié, c'est les étrangers. Et parmi eux, on a mis un certain temps à s'en rendre compte. Pendant longtemps, on disait des Occidentaux, des Centra-Asiatiques, etc. On se rend compte maintenant que dans leur grande majorité, ce sont des Sogdiens. Alors, évidemment, on a on voit que le choix, la sélection des métiers qui est montrée par ces figurines n'est pas forcément très complètement représentative de la réalité. On a choisi en fonction des effets pittoresques. Voilà, donc il n'y a pas lieu d'en tirer une étude statistique. Alors on voit évidemment le marchand sur son chameau, et vous voyez qu'il amène des outres, donc il amène du vin, il amène des vases de cuivre ou d'argent, article très demandé depuis l'Asie centrale et rapidement imité en Chine, puisque parfois, on a même du mal à distinguer entre les productions d'Asie centrale et les imitations Tang. Le chameau a une selle est bâté avec une selle de bois, vous voyez, parce que ça permet d'accrocher à plusieurs niveaux la marchandise. Dans certains cas, on voit des tapis. Ce qu'on ne voit jamais, c'est la soie. Parce qu'évidemment, ces marchands, on les voit arriver en Chine. On ne les voit pas partir de Chine. Ils ne vont pas importer de la soie en Chine. Alors, à côté des marchands qui voyagent en nombreux, en caravane, sur chameau à deux bosses, alors voilà, oui, un autre exemple. Alors, C'est pour montrer que parfois, l'artiste, si on peut éventuellement baisser un peu la lumière, on voit que parfois l'artiste s'intéresse moins aux marchandises qu'aux traits caractériels du marchand. Alors, en voilà un ici, n'est-ce pas, qui nous toise du haut de son arrogance et de ses sacs de sous. Hein. Et alors, on a aussi plus, on a le colporteur individuel. Parce qu'il y avait tout un petit peuple de... Il ne faut pas imaginer tout ce monde-là voyageant dans des grandes caravanes gardées. Dans beaucoup de cas, c'est du commerce à petits rayons du marchand de Camelot qui va aller d'une oasis à l'autre ou à l'intérieur de la même oasis. Alors, son bonnet l'identifie comme un sogdien. L'archéologie montre que effectivement ce cas de figure était assez répandu parce que malheureusement ces colporteurs qui voyageaient solitaires y couraient des gros risques. Alors on en a retrouvé quelques-uns, soit qui avaient été assassinés, soit qui ont été retrouvés, qui étaient morts en route, dont qu'on a retrouvé momifiés avec leur chargement. Une profession qui est surreprésentée, c'est le maquignon. Alors, il faut savoir que on ne s'en rend pas toujours compte quand on visite ces vitrines de musées, parce que on voit souvent, on a d'un côté le maquignon et de l'autre côté la monture, et on voit pas très bien ces personnages. On a l'impression d'un personnage en fureur, qui est extrêmement mécontent. En réalité, si on voit l'ensemble, il maîtrise les talons qu'il est en train de présenter aux haras impériaux. Étalons de chameau, un chameau mâle qui blatère, mais ça peut être aussi étalons de cheval. Et on sait que les Sogdiens avaient une niche professionnelle qui était la fourniture des talons aux haras impériaux, et à partir de la deuxième moitié du 8e siècle, c'est un business qu'ils vont largement laisser aux Ouïghours qui tiennent la route de l'Ouest. Mais enfin, les Ouïghours ont intégré des Sogdiens, donc ils ont, en fait, les mêmes affaires ont continué. Alors, celui-là est quand même particulièrement réussi. Celui-là aussi d'ailleurs. Dans certains musées, ils ont pris la bonne initiative de mettre des petites courroies en cuir pour exprimer le geste du maquignon qui présente sa monture. Je pense que jamais ils ont été trouvés ensemble. Mais c'est une bonne idée de les présenter comme ça, parce que ça permet tout de suite aux visiteurs de mettre en contexte. D'ailleurs, dans ce cas précis, je ne serais pas bien certain que c'est un étalon qu'on est en train de montrer, parce qu'il a une selle. Il n'y a aucune raison d'avoir une selle si c'est un étalon qu'on présente au haras. Alors, souvent aussi, un produit d'importation... Dans les produits d'importation présentés par les Sogdiens, il y a des animaux de chasse. Visiblement, c'était des très bons dresseurs. Alors, dans certains cas, ces animaux étaient importés de l'Ouest, d'Asie centrale. Dans certains cas, probablement non, mais c'est eux qui les dressaient. Alors, ici, bon, c'est pas très bien rendu, mais c'est un chien. Et en fait, on voit pas avec son long cou, son long museau, c'est un lévrier afghan. D'autres images sont plus réalistes. Ici, on a évidemment un faucon dressé. Ici, en selle, alors là, c'est une image qu'on retrouve très souvent, c'est un guépard. Alors, pendant longtemps, on s'est dit, ouais, les guépards, alors est-ce qu'ils réimportaient des guépards depuis l'Afrique ? Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, le guépard a existé en Asie centrale jusqu'au début du XXe siècle. Il y avait une race particulière à l'Asie centrale. Alors aujourd'hui, il subsiste quelques individus dans une réserve naturelle en Iran, au Khorasan. C'est une race de guépard qui est plus petite que la race africaine, mais qui se domestique aussi. Et ils existaient encore le long de la, dans les forêts-galeries, le long de la Moudaria, jusque, je crois, au début du XXe siècle. Dans certains cas, on pense que ce n'est peut-être pas des guépards, et en fait, je ne le pense pas non plus. Vous voyez, cet animal ressemble en fait pas à un guépard. Le guépard, il a une robe, il a des taches. Lui, il n'en a pas, il a les oreilles plus droites, il ressemble à un gros chat. Et très probablement, c'est ce qu'on appelle un caracal. Alors, le caracal, c'est une race de lynx qui se domestique pour la chasse. C'est ce qu'on appelle aussi le lynx iranien. Je crois qu'il existe aussi en Arabie. Le voilà au naturel. Je pense en fait même que sur certaines peintures de notre Moyen-Âge occidental, de la Renaissance, on voit des processions de chasseurs, certains animaux qu'on identifie comme des guépards sont en réalité des caracals. Alors, d'où venaient-ils ? Bon, alors, ces guépards, donc évidemment, ils venaient d'Asie centrale où c'était des élevages avec des animaux qu'on avait importés d'Asie centrale. Le caracal devait en venir aussi. Alors, autre profession très représentée, c'est la musique. Alors, voilà une joueuse de cymbales. Et vous voyez, là, un magnifique chapeau qui est en fait un paon empaillé. Et alors là, ça nous amène dans le monde interlope des bars du quartier est de la capitale Xi'an, décrit par la littérature, par les poètes d'époque Tang, où les musiciennes, danseuses et un peu autre chose aussi, étaient des sogdiennes. C'est une découverte qu'on doit à Pénélope Ribou, parce qu'elle a trouvé un texte qui éclaire la chose. C'est probablement la raison pour laquelle, dans les sarcophages des marchands sogdiens, les épouses sont habillées à la chinoise. C'est pour se différencier des filles de bar, qui, elles, étaient encore habillées à la sogdienne. Alors, on a aussi dans ces figurines des gens qui ne sont, semble-t-il, pas des sogdiens. Ce sont les acrobates. Alors, on n'arrive pas toujours bien à distinguer entre acrobates, danseurs, contorsionnistes, jongleurs, mais ce sont des types physiques différents. Ce sont les seules professions pour lesquelles on voit vraiment qu'ils viennent d'ailleurs. Alors, on pense. Des gens de l'Inde du Sud ou de l'Asie du Sud-Est. On a même pensé, dans certains cas, des Occidentaux, puisque des Syriens, par exemple, puisque les textes chinois nous parlent parfois d'ambassades qui viennent avec des acrobates, qui viennent du Fulin, c'est-à-dire la partie orientale de l'Empire romain. Alors ici, nous revenons dans un répertoire que nous avons déjà rencontré sur les sarcophages sogdiens, ce sont les nains. Alors lui, il est habillé à la sogdienne. Ce n'est pas forcément un sogdien, mais il est habillé à la sogdienne. Alors, les nains sont très souvent représentés en contexte sogdien, genre, pas dans la peinture sogdienne, à ma connaissance, mais en Chine, oui, sur plusieurs sarcophages. Ils faisaient vraiment partie de l'entourage aristocratique, comme amuseurs, voilà, on a dit pour les nains du Moyen Âge des petits humains de compagnie. Voilà. Des nains, il en est partout. C'est une proportion qu'on trouve égale dans toutes les populations du monde, sous les deux variétés, le 1 lilliputien qui est normalement proportionné et le 1 le plus fréquent, je ne sais plus le terme technique, mais qui est difforme. Les sogdiens, semble-t-il, avait un certain talent pour, disons, entraîner professionnellement et rendre vendables les nains qui naissaient chez eux. Alors, étaient-ils des esclaves ? Ne l'étaient-ils pas ? Alors on sait par les textes, aussi par les textes d'époque Tang, que les Chinois s'imaginaient qu'il y avait des îles d'où provenaient les nains. Ça devait être des histoires qu'on racontait. C'est Marco Polo qui nous parle à propos de Sumatra, que les habitants de l'île, avec beaucoup d'astuces, épient les races des macaques pour les faire passer pour des petits humains et les vendre comme nains. Pour en revenir aux musiciens, c'est un cas typique où le label sogdien a peut-être attiré plus qu'il ne doit. Je m'explique. Il y avait une corporation connue en Chine de musiciens ambulants qui portaient tous le même nom de famille, Cao. Et on disait que c'était des sogdiens, parce que Cao, c'est le nom de trois des principautés sogdiennes. En fait, il semblerait que non, qu'au départ, ce n'est pas des sogdiens, c'est une famille de Kucha, donc ce n'est pas des sogdiens, qui avait le nom de famille de Cao. Mais on a joué là-dessus pour faire croire que c'était des sogdiens, parce que voilà, le sogdien, ça se vendait bien. Et donc, voilà. Ce type physique que j'ai souvent eu l'occasion de montrer, est assez extrêmement éloigné en fait de la manière dont les sogdiens se représentent eux-mêmes. Sur les peintures sogdiennes, ils ont des traits assez réguliers, des visages assez bien charpentés, osseux, des traits fins, et ils se représentent. Enfin, de temps en temps, on voit des personnages qui ressemblent un peu à ça dans la peinture sogdienne, mais rarement. Alors, ce stéréotype, évidemment, exagère tout ce qui n'apparaît pas chinois. Hein. Ils ont des grands nez, contrairement aux Chinois. Ils ont les yeux à la fois enfoncés et globuleux. Ils ont les mâchoires saillantes. Ils ont une forte pilosité. Ce qui est amusant, c'est que quand plus tard, les peintres chinois et japonais vont avoir à nouveau l'occasion de représenter des Occidentaux, ils vont reprendre le même type. Par exemple, j'ai pas eu le temps de reproduire la photographie, mais sur les paravents japonais qui montrent l'arrivée des premiers navires portugais et hollandais, on voit que ces Portugais et ces Hollandais peints par les Japonais sont encore des sogdiens. On a été chercher dans le répertoire du barbare occidental. Alors, j'en viens maintenant à un domaine professionnel où les sogdiens ont vraiment excellé, où ils ont fait de très bonnes affaires. Il s'agit du commerce des femmes. J'ai même écrit une fois que c'était les sogdiens avaient probablement été les plus grands proxénètes de la route de la soie pendant des siècles. Et de ça, on a des indices. Alors, comment entrer en matière toujours dans le répertoire des terres cuites. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu... Ah, voilà. C'est plus probablement une jeune fille qu'un jeune homme, assoupi sur un chameau. Moi, j'y vois avec les manches longues qui caractérisent le costume des femmes, notamment. J'y vois volontiers. Elle a le crâne. On lui a rasé le crâne, mais elle a gardé des grandes boucles. J'y vois volontiers une de ces filles sogdiennes ou capturées par les sogdiens chez les Turcs. On va en venir à ça maintenant, dont il faisait profit. Alors, on a pour ça un texte très curieux. Un recensement local à Tourfan. La fin du 8e siècle, j'ai déjà mentionné donc ces recensements chinois à propos de l'étude de Trombert et de la Vessière. Ce texte signale deux maisonnées voisines qui ont une population assez curieuse. Les noms sont sogdiens, ou bien ce sont des traductions chinoises de noms sogdiens. Qui habite là ? Un musicien, 9 serviteurs libres et 68 esclaves des deux sexes, dont la plupart ont moins de 15 ans. Qu'est-ce que c'est que cette famille ? C'est évidemment une école. C'est une école de geisha. C'est une école destinée à augmenter la valeur marchande des esclaves en leur donnant une formation qui va permettre une formation à la musique. Alors on voit, oui, il y a un musicien, il y a probablement des maîtres de danse parmi les 9 serviteurs libres. On leur apprend peut-être la cuisine, je ne sais pas. La plupart ont moins de 15 ans. Donc ce sont des esclaves qui ont été capturés et qu'on forme pour les vendre à une clientèle distinguée. Alors, on a un document tout à fait remarquable auquel je viens maintenant, qui est le seul contrat de vente d'un esclave qu'on possède en Sogdien. C'est le contrat de vente d'une jeune fille esclave. Et vous verrez que ça a son importance. Il a été trouvé à Tourfan. Il date de 639, publié il y a une quinzaine d'années par Yutaka Yoshida, qui est revenu plusieurs fois sur ce texte, qui ne pose pas en fait des petits problèmes dans le détail, mais pas de problème général. Contrat trouvé comme on a trouvé tous les textes sogdiens. Une partie des textes sogdiens qu'on a trouvés à Tourfan ont été trouvés en contexte religieux dans la ruine du monastère manichéen ou dans des ruines chrétiennes ou bouddhiques. Mais en l'occurrence, il s'agit de ces contrats ont été trouvés dans des tombes qui sont d'ailleurs des tombes chinoises. Et je vous avais expliqué pourquoi est-ce qu'on les trouve. C'est que on met dans les dans les tombes, on habillait le mort avec du papier récupéré. Voilà. Et pour ça, on recyclait donc des vieux papiers qui étaient partis au rebut, et c'est comme ça qu'on a trouvé des archives. Alors, je vous lis tout de suite ce texte dans la traduction que j'ai refaite d'après la dernière traduction de Yoshida. Je commenterai après, mais déjà, ça parle pour soi-même. L'an 16 de Yan Chu, seigneur de Tourfan, qui est appelé Chilanchkranth, la ville des Chinois, le grand île Tébir, un titre je vous expliquerai après, le cinquième mois chinois qui en sogdien est appelé mois Rchum Safich, l'année du porc, le 27e jour. Au marché de Tourfan, en présence du peuple, le moine Yan Xiang, en fait c'est un nom chinois, Yan Xiang, fils d'Uta de la famille Chang, a acheté à Uruchuvirt, fils de Thothodak de Samarkand, alors là c'est des bons noms sogdiens, une fille esclave de la famille Chuyak, née au Turkestan, nommée Opach, pour 120 drachmes très pures de frappe perse. Le moine Yan Xian a acheté la fille esclave Opach comme une esclave complètement achetée, sans dette, sans avoir, sans poursuite, sans contestation, pour toujours, en propriété pour ses fils, ses petits-fils, sa famille, sa descendance. C'est un moine. Qu'en conséquence, tant le moine Yan Xian lui-même que ses fils, ses petits-fils, sa famille, sa descendance, à leur volonté la battent, la violent, on a traduit la batte, non, c'est la viole. C'est probablement, je dois vérifier, c'est probablement le même mot que l'anglais rape. Voilà, c'est exactement ce que veut dire ce mot. L'attache, la vende, la met en gage, la donne, la redonne et lui fasse tout ce qu'il leur plaira de faire. Au même titre qu'une fille esclave héritée du père ou du grand-père, ou née dans le clan, ou née à côté, ou née à la maison, cette esclave achetée moyennant espèce est propriété permanente. Et que, vis-à-vis de cette fille esclave nommée Opach, Uruchuvirt, donc le vendeur, soit dégagé de toute ancienne obligation ou droit de coercition. Ce contrat de fille esclave est présentable avec effet et il a autorité et validité pour le peuple tout entier, et aussi pour le seigneur et ses ministres. Quiconque produira et détiendra ce contrat d'esclave pourra recevoir et prendre cette fille esclave nommée Opatch et pourra la détenir en tant que fille esclave selon les conditions écrites dans ce contrat de fille esclave. Étaient présents, donc c'est les témoins, Tishrat, fils de Tchoujak, de Maïmourg, Namzar, fils de Khutawich, de Samarkand, Pesak, fils de Karz, de Nochkans, c'est-à-dire le nom ancien de Boukhara, Nizat, fils de Danaï Kouch, de Kushania. Ce contrat de fille esclave a été écrit par Ukhwan, fils de Pator, sous l'autorité de Pator, scribe en chef, par ordre d'Uruchuvirt et avec le consentement d'Opatch. Signé Pator, scribe en chef de Turfan. Voilà, alors. Est-ce le syndrome de Stockholm ? Bon, il faut, ce texte, il va quand même faire l'objet d'un certain nombre de commentaires. Alors, quand on lit ça, on se dit « Ah, nos gentils Sogdiens !» Nos gentils Sogdiens, voilà, c'est ça qu'ils faisaient. Bon, il faut aller un peu dans les détails. La date, l'ancêtre de Yan Chu, seigneur de Turfan, ça, donc, c'est un personnage qui porte un nom chinois, mais qui appartient, qui est donc l'ultime représentant de la dynastie locale sinisée qui régnait à Turfan avant la conquête Tang. Et en fait, ce texte, ce contrat est de 639 et les Tang conquièrent la ville en 640. Donc c'est juste avant la conquête de la ville. Alors, il porte le titre de... vous voyez que Turfan est appelé Chinanjkang, la ville des Chinois, depuis assez longtemps. C'est, y a une population chinoise à Turfan depuis, je dirais... déjà à l'époque des Han. Et donc, c'est le nom, c'est pas le nom local, mais c'est le nom que les Sogdiens donnent à Turfan. Parce que, sur leur chemin vers la Chine, c'est la première ville où ils rencontraient en masse des Chinois. Alors, il est grand Iltebir. Iltebir est un titre turc. C'est le titre que les empires turcs donnaient aux souverains locaux, souvent non-turcs, qui était subordonné. Alors, bon, ici, on est dans une zone tampon, puisque c'est quand même l'influence chinoise qui prédomine, et l'année suivante, c'est les Chinois qui seront là, mais il y a toujours un lien, le souvenir d'une ancienne subordination à l'empire des Turcs orientaux. Donc, c'est ce qu'exprime le titre Iltebir. Alors, vous voyez, la datation est donnée à la fois en mois chinois et en mois sogdien. Il n'y a pas d'année de règne sogdienne, il y a l'année de règne chinoise. Donc, évidemment, c'est pour que le document ait valeur juridique dans les deux communautés. Alors, la fille s'appelle donc Opatch. Ah oui, non, l'acheteur, le moine Yanxian. C'est un Chinois. Ben, connu par ailleurs, il faisait du business à Turfan, il est connu par d'autres documents. Comment un moine bouddhique peut-il acheter une fille esclave, visiblement, c'est suffisamment clair, visiblement à titre de concubine, et en même temps avoir une descendance ? Alors, là, il faut savoir que il y a deux moyens d'expliquer cette anomalie. Il existait des ordinations fictives. Il y a un certain nombre de gens qui s'achetaient des ordinations bouddhiques pour payer moins d'impôts. Vous ne pas en payer du tout. L'âme humaine est immuable. Mais c'est plutôt un phénomène qui est attesté plus tard, sous les Tang au 8e siècle. Ça pourrait déjà être le cas. Autre explication possible, au 3e, 4e siècle, dans les documents de Niya, dont j'ai déjà parlé, on voit qu'il y a des moines, c'est le mot indien shramana, hein, c'est le même mot qui est utilisé en sogdien. Il y a des moines qui sont moines à temps partiel. Ils vivent en famille, ils sont mariés, ils ont des enfants, et ils mettent leur robe monastique pour les fêtes. quand ils vont célébrer une cérémonie au monastère. Le reste du temps, ils sont en civil et ils mènent une vie de famille. Alors, ça pourrait être cette acception un peu relâchée de la condition monastique. Il y avait certainement des moines qui étaient rigoureux, qui vivaient dans la clôture, etc. Les moines ne vivent pas dans la clôture, puisqu'ils en sortent théoriquement pour aller mendier ou prêcher. Mais il devait y avoir plusieurs situations contrastées. Alors, la fille. La fille s'appelle Opatch, ou Opatcha, on peut lire des deux façons. Son nom, on a cherché du côté des noms sogdiens, on ne trouve pas d'explication. Alors, moi, il se trouve que je pourrais en proposer une, mais en turc. C'est-à-dire, on sait très bien que dans les langues turques, opa, ça veut dire, ça désigne la sœur aînée, et par extension, c'est un terme de respect pour une femme plus âgée. Et il se trouve qu'en ouzbek moderne, le terme peut se retourner, on a opacha, qui est un terme affectueux pour une jeune fille. Je traduirai tantine. C'est un peu, on a ça dans nos langues aussi, d'une petite fille, on va parler d'une petite fille en disant la petite mère. On prend les termes de respect de la génération précédente, on les retourne, et ce sont des termes qu'on peut appliquer à des gens jeunes. Et donc, voilà, ce sont des collègues ouzbeks, en fait, à qui j'ai soumis la question, qui m'ont dit, bah, chez nous, il n'y a aucun problème, opacha, opacha, ça veut dire, c'est tantine, c'est une petite fille, une jeune fille. Donc, il se pourrait qu'elle ait un diminutif turc. Ceci dit, elle a quand même, semble-t-il, une famille, Chouyak. On n'arrive pas à... Une esclave qui a une famille, ça paraît un peu curieux. Un clan, alors est-ce que c'est la tribu où elle a été capturée? On n'a pas réussi à identifier. Née au Turkestan, alors ça c'est intéressant parce que c'est en fait, je crois, la première attestation du mot Turkestan, 619. Alors, qu'est-ce que peut désigner Turkestan? En principe, la zone politiquement soumise aux Turcs. Donc, à l'empire, à l'un des empires turcs, turcs orientaux, turcs occidentaux, du point de vue sogdien, ça devait désigner la steppe au-delà du Sirdaria, qui était, donc, théoriquement, les principautés sogdiennes, à cette époque encore, font partie de l'empire turc occidental, mais c'est théorique. Le domaine proprement dit des Turcs, il commence quand on a franchi le Sirdaria, et le centre principal, c'est donc autour de la zone, disons, Kirghizistan, nord du Xinjiang actuel. La zone qui pourrait aller de Bishkek, Almata ou Urumqi. C'est vraiment le centre de... Elle a été acquise là, acquise sur des marchés d'esclaves, par un marchand de Samarcande, le vendeur, Uruchuvirt, qui, lui, a un bon nom sogdien, Uruchu, c'est une vocalisation de Warchu, c'est-à-dire l'Oxus. C'est le dieu de l'Oxus. C'est apporté par l'Oxus. Un nom très répandu en sogdiane. Ça pose un petit problème, c'est que l'Amoudaria n'est pas limitrophe de la sogdiane. Mais il l'était dans l'Antiquité, Et on sait aussi que, comme appellation divine, le terme n'était pas forcément limité à la rivière de l'Amoudaria. Ça a pu finir par désigner les rivières en général. Bon. Il a acheté cet esclave. Non, il la vend pour 120 drachmes très pures de frappe perse. Alors, très intéressant, on arrive à un moment où le système monétaire bascule. Dans les anciennes lettres que j'ai commentées ici, on ne parle pas de drachme ni de monnaie perse, on parle de statère, c'est-à-dire qu'il s'agit d'unités monétaires héritées de l'époque grecque qui désignent les monnaies locales, les petites monnaies locales en argent qu'on frappait en sogdiane. Et à partir d'un certain moment, très exactement à partir de ce moment-là, l'unité de référence, en argent. Ça devient la monnaie perse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément le moment où l'Empire perse va cesser d'exister. Mais là, on sait par les trouvailles archéologiques que ces drachmes, enfin, qu'on appelle aussi dirhem, mais c'est le même mot, le mot arabe dirhem, ça vient de drachmé grec. Ces monnaies d'argent perses circulaient d'une manière générale, enfin, dans le Xinjiang, enfin, dans le Taklamakan. On en trouve aussi en Chine. La monnaie chinoise n'était pas une référence, c'était une monnaie de commodité, une petite monnaie de commodité. C'était vraiment la référence. Pourquoi était-ce la référence ? Il y a peut-être le prestige attaché à la monarchie perse. Il y a aussi le bon aloi de ces monnaies. Elles étaient connues pour une drachme. Enfin, en fait, ce sont des tétradrachmes, ces monnaies sassanides, c'est-à-dire que ça pesait toujours 16 grammes, ça bougeait très peu et c'était du bon argent. Donc, c'était une référence. Alors, même si ce n'est pas forcément dans des pièces sassanides que la fille a été payée, mais ça sert de, c'était convertissable en. Voilà, c'est la monnaie de compte, la monnaie de référence. Alors, les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles cette fille entre en service. Quand on lit ça, ça paraît quand même terrifiant. Faut quand même trouver. Je cherche toujours à trouver des excuses aux Sogdiens. Le contrat sogdien a au moins le mérite d'étaler ouvertement le fait que dans tous les systèmes esclavagistes de l'histoire, je dis bien tous, jusqu'aux survivances contemporaines, les esclaves féminines, mais aussi les garçons, enfants compris, étaient à la disposition sexuelle des maîtres. Si vous étudiez tous les systèmes esclavagistes ayant existé sur la planète, les Grecs, les Romains, le Moyen-Âge arabe, il n'y a qu'à lire les Mille et une Nuits, les plantations, nos ancêtres planteurs dans les îles, les plantations américaines. L'esclave est par définition à la disposition sexuelle du maître. Alors les nuances, quand il y en a, concernent en fait le statut des enfants nés des unions avec les esclaves. Dans certains systèmes, comme par exemple dans le système américain et dans l'esclavage romain, les enfants nés des esclaves étaient eux-mêmes esclaves. L'enfant de mère esclave, on disait le ventre fait l'esclave. Bon, l'enfant de mère esclave était esclave. C'était aussi le cas à la Réunion, à la Martinique, à l'île Maurice. Bon. Dans certains autres systèmes, l'enfant pouvait, en fait, la concubine esclave qui donnait naissance à un enfant assez souvent était affranchie et l'enfant était reconnu et considéré comme parfois sur le même plan que les enfants légitimes. Ça, c'est le cas dans les systèmes musulmans, qui, de ce point de vue-là, sont plutôt plus favorables à la condition de la concubine esclave. Quasiment tous les califes ont été des fils d'esclaves. Tous les sultans ottomans, sans exception, sont des fils d'esclaves. Voilà. D'ailleurs, le terme consacré pour désigner le sultan ottoman, c'était le fils de l'esclave. Et certaines de ces mères esclaves, ces mères esclaves pouvaient ensuite, si leur fils accédait au trône, obtenir un statut social extrêmement élevé en tant que validé. Alors, chez les Sogdiens, en fait, c'est comme dans l'Iran sassanide, la situation de l'enfant né d'une concubine esclave, c'est pas très clair. Il semble quand même, il semblerait que c'est une situation un peu intermédiaire. Il est considéré comme de deuxième zone, mais malgré tout, il n'est pas esclave lui-même. Voilà. Il faut aussi est-ce que véritablement les choses se passent comme ça ? Il faut tenir compte du fait qu'il s'agit d'un acte juridique. Dans un acte juridique, tous les cas de figure sont prévus. Il n'y a qu'à lire aujourd'hui un contrat d'assurance. Des situations les plus invraisemblables sont malgré tout prévues au cas où ça pourrait, pour que la garantie soit totale. Et donc, ce texte n'est pas du tout nécessairement le programme de travail de cette fille. Voilà. C'est bon, très vraisemblablement, on va pas se faire d'illusions. Il l'a pas acheté pour faire le ménage et la cuisine. Mais est-ce que véritablement elle est destinée à l'usage commun de la famille, etc. À la limite, ce moine pourrait avoir été un vrai moine qui n'était pas marié. Ça peut être tout simplement la routine des scribes qui fait que quand quelqu'un achète un bien, on va parler de ses enfants, de ses descendants, de sa famille, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'il en a. Bien. Quelques mots sur les témoins. Alors, c'est assez intéressant. C'est tous des Sogdiens. Il n'y a pas un seul témoin chinois. Ils ont des bons noms Sogdiens. Tish, c'est le dieu Tishtria, le dieu de la pluie. Nana, on reconnaît la déesse Nana. C'est vraiment des noms Sogdiens bien attestés. Et vous remarquez, on indique toujours leur lieu d'origine. Et c'est jamais le même. Il y a Maïmourg, principauté au sud-est de Samarcande, dont faisait peut-être partie Penjikent. Il y a la Samarcande, d'où vient aussi le vendeur. Il y a Boukhara et Kushaniya, qui est entre Samarcande et Boukhara. C'est-à-dire que sur les neuf noms dont j'ai parlé, les neuf noms que portaient les Sogdiens de Chine et qui faisaient référence à leurs origines, il y en a quatre qui sont représentés. Et je ferai l'hypothèse qu'on a cherché à diversifier l'origine des témoins de façon à apporter la garantie maximale. Le contrat est écrit par un personnage qui est le fils du scribe en chef de la ville. Alors, le scribe en chef, donc, qui doit être donc une fonction officielle, donne la garantie au contrat, mais celui qui l'écrit, c'est son fils, que bien entendu, il est en train de préparer à sa succession. Bien. Et on avait vu cette notion de scribe en chef, ça recoupe tout à fait ce qu'on sait sur l'administration des Sapao, dont j'avais parlé, puisque dans les bureaux de Sapao, il y avait deux prêtres et il y avait un chef des gardes, donc il y avait une force militaire, et il y avait un scribe en chef. Donc c'est exactement ce qu'on trouve ici. On peut conclure tout ce cycle sur les Sogdiens en Chine. Bien entendu, je ne me cache pas le fait que j'aurais pu en dire beaucoup plus. J'ai voulu aller à l'essentiel et insister surtout sur les acquis les plus récents. Avec les tombeaux, les grands tombeaux sogdiens, on était arrivé jusqu'au début de la prise du pouvoir par les Tang, et c'est aussi l'époque que nous révèle ce contrat. Alors, que se passe-t-il à l'époque des Tang ? Alors, curieusement, les Sogdiens sont moins visibles, parce qu'ils sont visibles dans l'iconographie par ces petites figures, mais, par exemple, on n'a plus les Sapao, les grands marchands sogdiens intégrés à l'administration. Du coup, on n'a plus ces magnifiques tombeaux. Ils se fondent dans l'élite chinoise. Disons, ils font comme si ils se fondaient dans l'élite chinoise. En réalité, ils sont d'autant plus puissants qu'on les voit moins. Ils sortent du ghetto et ils rentrent dans l'establishment. Mais à certains moments, le facteur sogdien réapparaît au premier plan. Alors, j'avais déjà parlé donc, de la révolte d'An Lushan en 750, qui est un général mi-turc, mi-sogdien, qui a usurpé le pouvoir en Chine. On voit très bien que An Lushan s'est appuyé sur les réseaux sogdiens. Quand il rassemble, lors de ses proclamations, il rassemble les marchands sogdiens. On a même supposé que peut-être il avait une stratégie sogdienne globale, parce que très curieusement, 750, c'est le moment où c'est fini pour les sogdiens en Asie centrale. Les dernières révoltes, en fait, sont écrasés par l'arrivée au pouvoir des Abbassides Abou Muslim. Et curieusement, c'est le moment où les Sogdiens essaient de prendre le pouvoir en Chine. Donc, on a supposé que peut-être... Et puis, il y a la bataille de Talas en 750, où finalement, les armées arabes tiennent en échec les armées chinoises. Donc, à l'ouest, c'est barré pour les Sogdiens. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une stratégie compensatoire? Comme on a perdu le pouvoir à l'ouest, on va le prendre à l'est. C'est une possibilité qui a été envisagée. En tout cas, ça tourne très très mal pour les Sogdiens de Chine, parce qu'il y a une répression très dure, et des véritables pogroms. On a même dit que ça avait été un des plus grands massacres de l'histoire de la Chine, avec l'invasion mongole. On a des textes absolument terrifiants où les Chinois se mettent partout à chercher dans la capitale les gens qui ont un gros nez. Voilà, si on a un gros nez, c'est qu'on est un sogdien caché et c'est vraiment la chasse aux faciès. Et on voit ensuite, on continue à suivre des familles sogdiennes, mais ils changent de nom. Ou bien ils racontent des histoires sur leurs ancêtres. Par exemple, les gens qui s'appelaient Tsao, dont j'en ai parlé tout à l'heure, ce sont des noms de principautés sogdiennes, ils vont se rattacher à des personnages anciens de l'histoire chinoise qui s'appelaient Tsao, pour se fondre dans la nature. Ils sont probablement tout aussi actifs qu'avant, mais... la forme des implantations change. Ça n'est plus des communautés, véritablement. Ils sont davantage dans l'administration chinoise. Ils se fondent à l'ouest dans l'empire des Ouïghours, qui tient tout le commerce, littéralement rançonne l'empire Tang dans la deuxième partie de son existence. En vendant très cher les chevaux dont l'armée chinoise a absolument besoin, et c'est ce qu'on a vu sur ces terres cuites. Le stéréotype sogdien, dans la littérature de fiction, le sogdien chinoise, le sogdien reste l'image du riche marchand. C'est le sogdien, c'est l'Ali Baba des récits Tang. Alors, je prends le livre de Valérie Hansen qui relate un conte assez amusant dans les années qui ont suivi justement la rébellion d'An Lushan. Un jeune homme d'une bonne famille chinoise a découvert sur le rivage, alors est-ce que c'est le rivage de la mer probablement, un grand rocher. Moitié couleur océan, moitié rouge, avec des striures. Et il va à la capitale et il arrive à un marché annuel où sont réunis 30 marchands étrangers. Il est dit dans le conte, le plus riche, celui qui a le plus de marchandises à vendre, est assis à la place d'honneur avec un chapeau. Et le chapeau, tout de suite, on pense, ce qu'on a vu sur toutes ces images, le chapeau du sapao, l'espèce de bonnet blanc en coton qui caractérise le chef caravanier et le chef communautaire sogdien. Ce récit est codé. Ça veut dire « ce sont des sogdiens ». Le jeune homme les regarde. Alors, il y en a un qui vend 4 magnifiques perles, dont chacune fait plusieurs centimètres de long. Finalement, le jeune homme sort sa pierre et devant les marchands qui immédiatement l'assoit sur le siège d'honneur du plus riche marchand. Et on lui demande alors, il propose un prix. Il propose de vendre la pierre 1 million de sterling, de ligatures, les ligatures chinoises. Les Sogdiens répondent « Tu insultes notre trésor. » Et ils le lui achètent 10 millions. Et pourquoi? Parce que cette pierre, c'était en fait un trésor national sogdien qui avait été perdu depuis 30 ans, qui avait été transporté par la mer. Et en fait, le roi, ce qu'on raconte, c'est que le roi de Sogdiane avait l'habitude, devant cette pierre, de prier le soir, et quand il revenait le matin, la pierre était entourée de pierres précieuses, qui, pendant la nuit, l'avaient spontanément rejointe. Donc, ici, on a donc, ce que commente très bien Valérie Hansen dans son livre. C'est tout à fait, il y a des choses très réelles là-dedans, c'est extrêmement plausible que dans la deuxième moitié du 8e siècle, malgré la répression des Sogdiens, on pouvait encore, dans la capitale, se trouver dans un marché avec 30 riches marchands sogdiens avec qui on faisait du business. Et par ailleurs, les Sogdiens étaient l'une des niches commerciales des Sogdiens, qu'on ne voit évidemment pas sur les figurines de terre cuite, c'est le commerce des pierres précieuses. On voit même des stratégies personnelles intéressantes de commerçants sogdiens reconvertis comme missionnaires. C'est Amoga Vajra, l'un des introducteurs du tantrisme en Chine. Il est né à Ceylan d'un père hindou et d'une mère sogdienne de Samarcande. Et il était destiné à la carrière commerciale. Et puis, il est pris dans un naufrage en allant en Chine. Il prie le Bouddha, il est sauvé. Et du coup, il décide de devenir moine bouddhique. Et qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a fait des manipulations magiques sur les pierres précieuses. C'est-à-dire que, tout simplement, il a changé de costume. Il a continué à vivre du commerce des pierres précieuses, comme ses ancêtres. Mais au lieu de les vendre tout simplement comme un marchand, il a vendu les incantations qui allaient avec. Et il a conservé le rang social auquel sa famille l'avait destiné. Alors, il y a une donnée qui nous échappe, malheureusement, complètement. Il faut espérer qu'elle ne nous échappera pas toujours. Ce sont les retours au pays. Pendant toute cette année, donc, vous avez vu beaucoup de Sogdiens qui partaient d'ouest en est, en vagues successives. Il semblerait qu'en plus, il y a un renforcement en fait, de l'immigration au milieu du 7e siècle, après, des nouvelles vagues qui arrivent après la conquête arabe de la Sogdiane. On voit bien ça sur le terrain avec les recensements de Dunhuang et de Turfan. On les voit d'ouest en est. Mais qu'est-ce qui se passe d'est en ouest ? Tout ce qu'on a vu, c'est l'ancienne lettre 2 où le marchand écrit à ses cousins qui tiennent le business à Samarcande. Donc il y a des relations postales. Mais on n'entend jamais parler de retour au pays. Alors, des retours au pays, il y a dû y en avoir, évidemment. Il n'y a pas d'exemple de diaspora marchande qui n'ait pas conservé où il n'y ait pas disons, des fins de carrière qui se passent plutôt au pays. Alors, des fins de carrière de marchands sogdiens, on en a vu sur ces sarcophages de Sapao, ce sont des fins de carrière comme dignitaires chinois. Il y a certainement eu des fins de carrière comme riches marchands sogdiens revenus chez lui. On ne les voit pas dans les textes. Elles ont certainement existé, mais pour le moment, on ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qui a été hérité de tout ça dans l'art de la Sogdiane en Sogdiane ? Eh bien, curieusement, il y a très peu de choses vues. On a des scènes exotiques, on a des évocations de la Chine, on voit dans la grande peinture des ambassadeurs, on voit des scènes de cour en Chine, on voit une peinture de Penjikent avec des musiciennes chinoises, On voit des images de l'Inde qui sont en fait généralement associées à des récits bouddhiques. Ça n'est jamais fondé sur des impressions vivantes. Ce sont des stéréotypes ou des modèles qui ont été copiés. On voit que quand il y a des scènes chinoises dans la peinture sogdienne, c'est probablement inspiré de rouleaux, de peintures sur des rouleaux de soie chinois. Ce n'est pas les souvenirs des gens qui sont revenus de Chine. Il y a là quelque chose... des récits, il y en a évidemment eu, mais des carnets de croquis, des artistes sogdiens qui auraient ramené des idées en revenant de Chine, on ne le voit pas du tout. Contrairement à, encore une fois, le phénomène inverse, où l'Artang est très influencé par les arts de l'Asie centrale. Alors, on peut dire que ce n'est pas spécifique à l'aventure sogdienne. Si on prend, par exemple, le livre de Marco Polo, voilà, le plus lu des récits de voyage du Moyen-Âge, à part la compilation de l'usurpateur Mandeville, qui a quand même eu le mérite d'expliquer que si on partait vers l'ouest, on trouverait un continent. Il avait quand même compris ça. Bon, alors, dans les manuscrits de Marco Polo, il y a des centaines de manuscrits de Marco Polo. Il y en a, les manuscrits français produits pour l'entourage des rois de France ont des miniatures magnifiques. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vu, ni avec ce qu'il a raconté. C'est extrêmement fantaisiste, ça a un rapport très lointain avec le texte. Quand on voit Pékin ou les palais de Kubilai Khan, les châteaux, c'est de la transposition de villes et de palais de notre Moyen Âge à nous. Quand Marco Polo écrit, il n'y a pas de licorne. Les licornes, en fait, c'est un mythe. En réalité, la licorne, c'est un vilain animal tout noir qui sent très mauvais. Évidemment, il parle du rhinocéros. Dans le manuscrit, on va représenter une licorne, comme on a. Donc, on a le même. On voit que ce répertoire, en fait, est stéréotypé. Il s'inspire du répertoire romain, de l'exotisme romain, des monstres légués par la tradition classique, pas du tout du récit lui-même. Si Marco a dessiné quelque chose en revenant de ses voyages, oui, on sait qu'il a dessiné une chose une fois, il a dessiné la Croix du Sud, qu'il n'avait jamais vue, puisqu'il n'a pas franchi l'équateur. Mais il avait rencontré des marchands qui avaient vu la Croix du Sud. Et ce n'est pas dans son livre, mais on sait que, par ailleurs, il a été consulté par un géographe, un dominicain, et pour lui, il a dessiné la Croix du Sud. Donc, Marco a dessiné quelque chose. Mais il n'a jamais... Il n'était peut-être pas doué pour le dessin. En tout cas, rien de ce qu'il a vu n'a laissé une trace graphique. Eh bien, on peut dire, évidemment, c'est l'histoire qui est arrivée aussi avec cette merveilleuse aventure des Sogdiens en Chine. Oui, des traces graphiques, il y en a. C'est cet art sogdien transplanté dans les tombeaux chinois, mais il n'y a absolument pas eu l'inverse. Voilà, je terminerai avec... celui que j'appelle le dernier sogdien de Chine, ce qui montre que ses réseaux, ses habitudes, même quand les textes n'en parlent pas, ça continuait. C'est toujours dans Marco Polo. Il raconte, parce qu'il était très bien informé là-dessus, il raconte l'exécution du ministre des Finances de Kubilai Khan, qui s'appelait Ahmad Fenaketi. Ce personnage a fait marcher la pompe financière du Grand Khan, a fait circuler les billets de banque qu'on a introduits à ce moment-là. Ah, bon, évidemment, alors on l'accuse évidemment d'avoir détourné de l'argent, il s'empare de toutes les femmes qu'il veut, etc. Il se fait haïr et on profite de l'absence de Kubilai Khan pour l'assassiner. Et finalement, Kubilai veut d'abord châtier les assassins, puis il découvre que le personnage était un escroc. Du coup, il le fait déterrer et le livrer aux chiens, et ses fils sont écorchés vifs. Il le remplace par un autre qui sera exécuté quelques années après, puis encore par un autre qui sera exécuté quelques années après. Alors, ce personnage, ce tout-puissant Ahmad Fenaketi, tout simplement, c'est un Sogdien. Fenaket, c'est une ville au sud de Tachkent. C'est aujourd'hui Charloukia, qui est un site archéologique bien connu. C'est certainement dans la continuité. Voilà. C'est pas quelque chose de nouveau qui est arrivé avec les Mongols. Ces personnages-là, il y en a eu dans tout l'intervalle, comme ils s'intitulaient plus Sogdiens, c'était des marchands musulmans, marchands persans, etc. Éventuellement, une hypothèse qui commence à percer, c'est qu'un certain nombre de gens qu'on voit apparaître comme juifs en Chine ou en Asie centrale à partir du 8e siècle pourraient avoir été des descendants de Sogdiens. Voilà. Bien, j'ai terminé donc pour cette année. Je vous remercie de votre fidélité.